ensemble avec nous la parole de Dieu. C'était un petit bout de la parole. Nous avons, on a regardé terminé, mais encore un point important à aborder dans cette magnifique épître de Paul au Romains. Vous pouvez déjà ouvrir à nouveau Romains chapitre 11, verset 36, le PowerPoint s'affiche, merci beaucoup. Est-ce que c'est lisible ou vous voulez que je réécrive? Ça va, c'est lisible? Ça va, ça va.
Moi, je vais là.
Bonjour. On a vu déjà des. Bien sûr, on ne fait pas une étude systématique, linéaire de l'épître aux Romains, les épîtres de Paul, parce qu'en réalité, on est en train de considérer l'ensemble des épîtres de Paul, celles qu'il a écrites à des communautés, à des églises. Et on a commencé par l'épître aux Romains, mais nous considérons, non pas de façon linéaire, nous considérons les grandes vérités, les vérités spirituelles fondamentales que chaque disciple, que l'Église doit assimiler et vraiment saisir par la foi, ne pas les perdre de vue, parce que ce sont des vérités qui sont vitales, réellement vitales, pour conduire vers une victoire totale sur le péché, conduire vers la sainteté de Dieu. Nous avons vu déjà cette question de la justification par la foi, justifiée par la foi, grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Je ne peux pas résumer. Tous les PowerPoint et les enregistrements sont à votre disposition. On a vu que le chrétien, évidemment, bien sûr, la grâce dans laquelle nous demeurons fermes n'est pas un encouragement à pécher, mais que cette grâce, cette pédagogie de Dieu nous libère de la loi. On a compris que la loi avait une vocation, on a compris sa norme, on a compris son point fondé, mais en réalité, on a compris sa nécessité, mais on a bien compris ses limites. Et le fait qu'elle ne soit jamais, jamais une occasion de justification, qu'elle soit incapable de nous changer. Et c'est comme si l'apôtre Paul nous disait, si la loi de Dieu, aussi parfaite soit-elle, est incapable de produire le moindre changement dans votre vie, imaginez, ce n'est pas votre loi, vos efforts et puis le travail que vous essayez de faire sur vous-même qui changera. Quoi que ce soit, vous êtes libéré de la loi et parce que la loi. C'est ça la puissance du péché, 1 Corinthiens 15. La puissance du péché, c'est la loi. Nous sommes libérés de la loi. Nous sommes morts et ressuscités avec Christ par la nouvelle naissance et le baptême. Nous sommes libérés donc de la puissance du péché. Et l'objectif, Paul est clair, c'est la sainteté. Et puis ensuite, c'est là qu'on est arrivé à ce grand point de la consécration totale. Et on va relire ensemble Romains 11. Verset 36. J'avais commencé à parler un petit peu de ce point, mais on va approfondir ça ce soir. Romains chapitre 11, verset 36.
C'est eux, il parle.
Donnez-moi juste un instant. Si vous rejoignez, je n'avais pas ouvert le texte. Romains 11, 36, c'est le dernier verset du chapitre 11. C'est de lui, par lui, et pour lui, que sont toutes choses. À lui, sa gloire dans les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On a commencé à regarder ensemble la question de cette consécration totale, parce que oui, évidemment, il y a l'œuvre que Jésus a accomplie, il y a des grandes vérités spirituelles que oui, nous saisissons, mais en réalité, il est bien évident que nous n'allons pas rester attentistes. On ne va pas rester passif à attendre là, oisif, que quelque chose nous tombe tout cuit du ciel dans le bec. Le Seigneur nous place toujours face à nos responsabilités d'une façon ou d'une autre. Et ma part, ma responsabilité, Paul est clair, parce qu'ici, ça arrive un petit peu comme c'est un grand cri, c'est une espèce de conclusion, c'est une apothéose, c'est logique. Je ne vais pas rester attentiste. Il y a ma part, il y a ma responsabilité, cette volonté, cette détermination d'aller chercher ce que je suis déjà en Christ, cette détermination d'aller m'emparer de ce que je suis déjà en Christ. Et il y a toute cette logique, l'apôtre Paul, c'est bien, quand il parle de raisonnable, il parle littéralement de logikos en grec qui a donné le mot logique parce que c'est du bon sens, parce que vu ce que Paul vient de développer, c'est comme s'il disait, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous avez un Jésus qui a été tout entier à vous à la croix. Vous voulez faire quoi d'autre à part vous donner tout entier à lui? C'est la réciprocité logique. Lui, vous n'êtes capable de rien. Lui, il est capable de tout. Offrez-vous tout entier à Dieu. Vous ne pouvez pas vous changer, mais lui, il peut. Donnez-vous tout entier à lui. Et c'est la conclusion logique de tout ce qu'il a développé dans ses grands points, dans ses grandes vérités spirituelles, de nous amener à une authentique vie de consécration, d'amener en nous cette détermination, cette priorisation de soigner notre relation avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie qui habite en nous et qui nous emmènera, ce sera notre prochaine étude dans l'Épître aux Galates, à ce que Paul appelle la marche par l'Esprit. Et il faut absolument passer par là d'abord. Que faire d'autre? C'est la logique spirituelle, puisque c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Compris moi, puisque dans tout, il y a moi. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? C'est de lui, il est l'origine de toutes choses. C'est pour lui, il est la finalité de toutes choses. Mais c'est par lui, il est aussi le moyen de toutes choses. Donc il faut que je lui donne les moyens de pouvoir me transformer, me changer. Et c'est tellement logique, c'est pour ça que Paul dit « je vous exhorte ». Dans ce terme original, il y a une notion d'instance. Littéralement, il dit « je presse, je vous supplie » à cause des compassions, littéralement. C'est à cause des entrailles d'amour que Jésus a pour vous, parce que Jésus ne nous aime pas, bien-aimés. Quand on dit « Jésus nous aime », on est encore à côté de la plaque. Jésus souffre d'amour pour nous, il est passionné de nous. Et à cause de ses entrailles de bonté, de compassion, de miséricorde, peu importe vos traductions, à cause de cela, sur la base de son amour, ah, je ne vais pas lui donner toute ma vie, je ne vais pas laisser ma vie sur son autel pour qu'il m'aime. Alors il ne peut pas m'aimer jusqu'à ce qu'il m'aime de la croix. Je ne veux pas pour qu'il m'aime. Paul me dit, je ne fais pas ce qu'il m'aime. J'ai compris à quel point il m'aime. C'est pour ça que je n'ai aucune peur, aucune réserve, aucune réticence. Et bien souvent, on a souvent des réticences avant la conversion, à se donner à Dieu, puis pendant, même après la conversion, dans notre marche avec le Seigneur, on a du mal à s'abandonner, on a du mal à faire foi, on veut quand même contrôler, on veut gérer, on veut maîtriser d'une façon ou d'une autre. Et Paul dit, mais c'est bon, stop, arrêtez tout ça, comprenez-vous, disciples, il écrit à des disciples, prenez à quel point il vous aime, et lâche tout, donne tout, abandonne tout. Tu retiens, plus tu perds du temps, et tu tournes en rond. Alors donne tout. Réfléchis, dis-toi peut-être, tiens, une prière qui pourrait être super. Seigneur, si tu identifies quelque chose dans ma vie qui ne t'appartient pas, donne-le-moi. Tiens, Seigneur, s'il y a partie de ma maison spirituelle, s'il y a un coin de ma vie dans lequel tu n'as pas accès, donne-le-moi, Seigneur, pour que je t'ouvre la porte très vite. S'il y a certaines choses dans ma vie qui ne t'ont pas été totalement données, abandonnées, montre-nous-moi, Seigneur, histoire que nous ne le gaspillons pas davantage, parce que tu vas gérer beaucoup. Et ce sont des choses où je comprends cette réciprocité dans la foi, dans la confiance, sur la base de l'amour de Dieu, ce grand cri de Paul, offrez-vous tout entier à Dieu, y compris vos corps. Oui, j'ai tout donné au Seigneur. J'ai conscience jour après jour. Mes cieux sont au Seigneur. Donc je ne peux pas avoir n'importe quoi devant mes yeux. Mes mains sont au Seigneur, mes pieds sont au Seigneur. Pardon, mon sexe est au Seigneur. Tout est au Seigneur. J'ai tout donné au Seigneur. Ma langue est au Seigneur. Il y a des choses, je ne peux pas les cautionner. Je ne peux pas participer à des conversations. Mes oreilles sont au Seigneur. Je ne peux pas, il y a des choses. Je suis désolé, je ne peux plus entendre ça. Tout est au Seigneur. Offrez-vous tout entier à Dieu. Offrez vos corps, tout est au Seigneur, comme un sacrifice, bien sûr, spirituel et vivant, j'ai conscience que tout lui appartient, et c'est ça la difficulté. C'est la difficulté du sacrifice vivant, comparé au sacrifice de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, quand vous preniez un taureau, ce que vous voulez, ou le pigeon, le sacrifice du pauvre, quand vous preniez un agneau, une fois qu'il était égorgé, etc., vous le posiez sur l'autel, pour la rémission des péchés, ben, le sacrifice, il était mort, il ne bougeait pas, il n'y a pas de souci, il restait. Le problème du sacrifice vivant, c'est qu'il est souvent tenté de faire des allers-retours sur l'autel. J'y vais, il m'a trop énervé, c'est attends Seigneur, je reprends ma vie 5 minutes, il me dit ces quatre vérités et je m'en mets sur l'autel. Il a dit non, ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Je suis, Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi tout entier et tout le temps. Est-ce que je t'ai tout donné ou est-ce que je ne t'ai pas tout donné? Et si je t'ai tout donné, est-ce que je te l'ai donné tout le temps? Parce que dans ce brios, je l'ai mis ici, mis à part, en réalité, tout appartient au Seigneur, un sacrifice saint, brios, mis à part. J'ai tout mis à part pour lui, je lui ai tout donné. Je ne peux pas être, imaginez, je vous donne cet exemple, je ne peux pas être à 100% une semaine sur deux, ou dans un bon week-end, dans une bonne réunion, et puis vivoter la semaine, et puis reprendre. Je ne peux pas être à 100% le dimanche, le mardi, et puis entre deux, on fait ce qu'on peut, Seigneur. C'est comme ça. Non, non. Je ne peux pas non plus être à 50% tous les jours, mais juste à 50%. Non, je lui appartiens à 100% et tout le temps. Imaginez mes sœurs ou mes frères. Pour ceux qui sont déjà mariés, pour ceux qui vont se marier, je pense qu'après avoir rencontré Jésus, après avoir fait le plus beau choix et le plus beau mariage de votre vie, de vous marier avec Jésus, ensuite vient le deuxième mariage logique, c'est avec qui je vais construire ma vie ici-bas, Seigneur. Et imaginez que le beau jeune homme, la belle jeune fille, qui arrive et qui vous dise, qui vous regarde, qui vous dit, tu sais, vraiment, je t'aime. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Mon cœur sera à toi à 100%. Mais seulement une semaine sur deux. Une semaine sur deux. 100% une semaine sur deux. Et la deuxième semaine, ton cœur, il est acquis, en fait. Enfin, il faut que tu comprennes. Il y a Nadia, il y a Jessica, il me faut une marque de sécurité en cas. Ah, je crois que mes sœurs, là, vous auriez pris la barbe. Vous auriez fait un sourire algérien. Parce que, qu'est-ce que vous allez construire comme couple avec un gars comme ça, avec une femme comme ça? Ce n'est pas possible. Et s'il vous dit, bon, ok, je serai avec toi tous les jours. Tous les jours, je suis avec toi. Mais mon cœur est avec toi tous les jours. Mais à 50%. Non, ben c'est gentil, tu vas quand même garder ta balle. Parce que qu'est-ce que je vais construire avec quelqu'un qui est avec moi de temps en temps? Je fais des allers-retours. Non, ça ne va pas. Paul le dit, c'est du bon sens. C'est logique. Et voilà ce que Dieu attend de moi. Voilà ce que Dieu attend de vous. Et même si je lui appartiens depuis des ans, il veut que j'identifie les parties de ma vie, de mon cœur, de ma maison spirituelle auxquelles il n'a pas accès, ce qu'il n'est pas encore totalement abandonné. Le Seigneur, il me dit, donne-moi. Donne-moi ta langue, donne-moi tes oreilles, donne-moi tes yeux, tes pieds, tes mains. Tu me donnes tout, absolument tout. C'est l'offrande de ta vie tout entière. Et quand cette offrande, elle est totale et qu'elle est permanente, parce que je suis vraiment entré dans cette dimension de relation avec l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu, il peut commencer à agir librement en moi et il commence à faire une œuvre miraculeuse. De transformation, de métamorphose. C'est le premier bienfait de la consécration. Vous pouvez mettre la diapo suivante, merci. Il y a une deuxième diapo. C'est le premier bienfait de la consécration, c'est la transformation intérieure. D'être miraculeusement changé de l'intérieur, à l'intérieur, de l'intérieur, miraculeusement changé. Transformé. Mais juste avant de me dire « Sois transformé », souvenez-vous, comme Paul nous a dit de différentes façons, maintenant que vous avez été justifié, maintenant que vous êtes libéré de la loi, maintenant que vous êtes libéré de la puissance du péché, maintenant il va falloir faire des choix judicieux, stratégiques, des choix rapides, des choix nets, francs, inconditionnels et un choix total. Mais avant, il faut que vous compreniez, on l'avait revu avec Romains 6, que vous avez une liberté retrouvée, mais une liberté de choix. Parce qu'on est toujours confronté au conséquences de nos choix. Notre véritable liberté, même en tant qu'enfant de Dieu, la liberté retrouvée une fois la loi et la puissance du péché libérée. De toute façon, j'ai une liberté de choix. Et ensuite, on l'avait vu la semaine dernière, ce à quoi je vais me soumettre, c'est ce qui va prendre autorité sur ma vie. Et là, l'apôtre Paul refait quand même un petit point, c'est comme s'il me disait, tu as la liberté de choix, mais il faut que tu sois conscient. Tu es dans un monde, c'est ce que Jésus dit, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde, mais tu es dans ce monde. Il faut que tu sois conscient que dans ce monde, il y a tout un système de principes qui est prêt à te former, à te formater. Et ça, il va falloir, avant de trouver la bonne voie, il faut toujours identifier la mauvaise et lui dire non, c'est ce qu'on a vu dimanche. Il faut renoncer, dans renoncer, il y a non, il faut renoncer à, pour ensuite dire oui à. Et là, il dit d'abord, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, peut-être selon vos traductions, je crois que c'est Sommer de mémoire qui a traduit, ne vous laissez pas modeler, c'est ça, c'est ce que dit Sommer, hein, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Parce que si Dieu a un plan pour vous, si Dieu a un modèle suprême pour vous, si Dieu a une volonté et un avenir pour vous, il n'est pas que l'ennemi de vos âmes, lui aussi, il a un avenir pour vous. Et ce monde a aussi tellement de subterfuges pour essayer de vous modeler. Le monde, bien-aimé, ce n'est pas une tenue vestimentaire, ce n'est pas une apparence, ce n'est pas un air de sainteté, ce n'est pas des jolis mots ou des belles prières. Le monde actuel, ne vous laissez pas modeler par le siècle présent, par le monde actuel. Le monde, dans la pensée biblique, c'est un ensemble de principes qui sont contraires, antagonistes avec le royaume, les principes du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a la douceur, la compassion, la miséricorde, la patience, l'égalité, l'amour, la joie, la paix, etc. Et une langue douce et compagnie. Et dans le monde, il y a toutes sortes d'autres principes. Il y a un état d'esprit, il y a une mentalité, il y a une façon de raisonner, il y a des affections, des choix, des priorités. Le monde, c'est un ensemble de principes qui sont contraires aux principes du royaume. C'est ça le monde. Et c'est pour ça que Jésus dit la victoire qui triomphe du monde, de tout ce qui veut vous aspirer, c'est votre foi, parce que vous avez pleinement confiance, vous avez renoncé à ça. Et... ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, sa mentalité, son état d'esprit, ses raisonnements, ses affections, ses choix, ses priorités, ses principes. Vous ne trouvez pas que plus le temps passe, plus la pression de ce monde est palpable sur nos cœurs, sur nos vies, sur la façon dont ils essayent d'aspirer, de nous modeler, de nous amener à nous fondre dans la masse. Soyez conscients qu'il y a un système de fonctionnement qui est pernicieux, subtil, et qui veut vous mettre dans son moule. Il veut vous modeler, il veut vous mettre dans son moule. Vous y renoncez. Parce que vous, enfants de Dieu, vous êtes conscients que le modèle suprême, le seul modèle qui vaille la peine d'être imité, c'est Jésus. Soyez donc transformés, ayant renoncé, soyez donc transformés. Et moi, ce que je veux penser comme Jésus. Je vais avoir les mêmes affections que lui. Je vais avoir la même mentalité que lui. Je veux le même état d'esprit. Je veux le même cœur. Je veux les mêmes sentiments. Je veux les mêmes raisonnements. Je veux vivre selon les mêmes principes. C'est le sens de ma vie nouvelle. C'est le sens de ma liberté. Non, te laisse plus aspirer par là. Tu es libre. Retourne pas à ce que tu as vomi. Mais attache-toi à. Renoncez à. Colossiens 3. Affectionnez-vous à. Cherchez les choses d'en haut, etc., etc. Vous n'avez qu'un seul modèle. C'est Jésus. La seule vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est la sienne. On avait vu dans Romains 8, objectif sainteté, afin d'être semblable à l'image du Fils unique, à l'image de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit, c'est la parole, qui vont faire ce miracle en vous. Paul dit bien, soyez transformés. Il n'a pas dit transformés vous-même. Soyez transformés. C'est un peu passif dans une certaine mesure, pas passif au sens où j'attends que ça me tombe tout cuit dans le bec. C'est j'ai vraiment ma part à faire, je dois aller chercher ces choses et me mettre dans dans l'offrande et dans la relation du Saint-Esprit. Mais c'est passif au sens où Mais ce n'est pas moi qui le produis. C'est lui qui le fait en moi. Soyez transformés. On retrouve l'équivalent dans 2 Corinthiens 3. J'ai pas lu, j'avais plus de place, mais si pour ceux qui notent, c'est le verset 18, 2 Corinthiens 3, 18. Il dit bien, Paul, nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit. Ce n'est pas moi, je suis pas transformé par moi-même. Je suis transformé par le ministère de l'Esprit et de la parole dans mon être intérieur. C'est là que se tient le véritable miracle. Alors oui, c'est un impératif, oui, il faut l'être, mais il faut pas se tromper de façon pour arriver à cette belle réalité spirituelle et pratique quotidienne. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a quelqu'un de cet esprit. Il y a quelqu'un qui le fait en moi, qui le fait pour moi. Et le chemin pour arriver à ce modelage, eh bien, c'est la consécration totale. Oui, je suis transformé, pourvu que c'est ma part dans ce processus miraculeux. Je vive une authentique vie de consécration, un investissement total pour lui permettre de laisser le temps d'accomplir son œuvre. Bien souvent, bien aimé, c'est pas compliqué. Pourquoi on a du mal? On ne laisse pas le temps. On ne laisse pas la place qu'il doit avoir. On ne lui laisse pas la place nécessaire. Et comme on ne lui laisse pas la place nécessaire, on ne lui laisse pas le temps nécessaire, il est sclérosé. Il n'est pas accéléré. Il n'a pas son mot à dire ici. Il est confronté à des raisonnements qu'il ne peut pas lâcher ici. Puis ici, depuis le temps, ben non, j'entretiens ma peur, mon inquiétude. Et puis là, il y a cette... Et l'esprit est là, il est à l'intérieur, il nous aime. Et malheureusement, pardonnez-moi, parfois nos cœurs ressemblent plus à une cage à lapin dans laquelle le Saint-Esprit essaie de faire un peu quelque chose. Alors qu'en réalité, il devrait avoir open bar, pardon pour l'expression. Seigneur, ici t'es chez toi, mon Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que je n'ai pas. Ah ben là, si vous me laissez l'espace et le temps nécessaire dans vos communions, dire vous allez faire du progrès à une vitesse. Je ne suis pas obligé de me galérer 25 ans pour faire un peu de progrès dans la patience ou le monde. Les progrès peuvent être vraiment extrêmement rapides, pourvu que je développe cette vie, puis on va le voir rapidement, que je l'entretienne. Ça, c'est ma part de possible. Et si je laisse, si je fais ma part de possible, lui va faire sa part d'impossible. Il va me transformer. Chose que ni moi, ni personne, ni la loi, ni rien, ni ta femme, ni ton mari, ni tes parents, personne ne peut te changer. Mais le Saint-Esprit ne peut te changer. Et là, le chemin, c'est la consécration. Amen. C'est ce miracle, cette métamorphose, je l'ai mis ici, cette transformation intérieure. C'est le même mot qu'en 2 Corinthiens 3, 18. C'est le même mot lorsque Jésus, sur la montagne de la Transfiguration, là, avec Moïse, Élie, il est dit que devant Pierre, Jacques et Jean, Jésus a été transfiguré, métamorphosé, littéralement métamorphosé devant leurs yeux. Il a rayonné de la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul, ici, en Romains 12 et en 2 Corinthiens 3, il reprend exactement le même terme. C'est comme s'il me disait, de la même façon que Jésus a rayonné de la présence de la gloire du Père. Mais vous, par le Saint-Esprit, vous pouvez être... Alors, bien sûr, vous n'allez pas commencer à être illuminé, mais vous pouvez rayonner. Vous lui ressemblez, il a rayonné de la gloire du Père. Vous êtes rayonnant de la gloire de Dieu. Vous pouvez être rayonnant de joie, rayonnant d'amour, etc., etc. Transfiguré, métamorphosé. Amen. Toujours davantage, toujours à son image, toujours plus rayonnant de lui. Et ça, c'est le sens fondamental, premier, c'est l'objectif premier de toute vie chrétienne, de toute vie d'ici. Pourquoi suis-je né de nouveau? Quoi? En deux mots. Pourquoi suis-je né de nouveau? Le pourquoi, j'étais pécheur, en un mot, le Seigneur m'a sauvé. Amen. Mais pourquoi maintenant suis-je né de nouveau? Pour ressembler au Seigneur. Pour ressembler au Seigneur qui m'a sauvé. C'est ça le but. Et la vie chrétienne, bien aimée, c'est ça extraordinaire. Je ne sais pas si des fois on y pense, mais régulièrement, il y a quelques degrés, on y pense, j'en sais rien, mais le but de la vie nouvelle, la vie chrétienne, je vais dire un truc bête, hein, et tant pis, la vie chrétienne, c'est une vie nouvelle.
C'est pas l'ancienne qui essaye de faire des efforts. La vie chrétienne est une vie nouvelle. Non, je suis désolé, bien-aimé, je ne suis pas une version 2.0 de moi-même. Non, en ordinateur, en informatique, mon logiciel, vous l'écrasez, vous faites la version 2.0. Stéphane ne doit pas être une version 2.0 de lui-même. Je ne suis pas une version améliorée de moi-même. Je suis un être nouveau. La repentance, la foi, la conversion, l'œuvre de Jésus, la justification, la libération de la loi du péché, la communion avec le Saint-Esprit. Je suis une personne nouvelle. Et cette personne nouvelle, si elle comprend les principes spirituels et qu'elle s'occupe bien de sa communion avec le Saint-Esprit et la parole, ben je vous garantis, elle peut très vite ressembler à son Seigneur. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est le miracle. C'est la première volonté générale, commune, pour n'importe quel disciple, n'importe quel pasteur, avoir des fils et des filles semblables à l'image du Fils unique. C'est ça le premier de tout ce qui tient. Le reste, il y a des choses importantes à dire, mais ça vient après. Un être totalement transformé. Dans trans, ce préfixe signifie changement. Nous avons été, dit Paul, transplantés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Transplantés, le changement de terrain. Transformés, changement de forme dans le caractère et les sentiments, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes réactions, dans mes choix, dans mes priorités. Transformer, le changement, formé différemment. Et une œuvre, par la grâce de Dieu, peut être réellement rapide et on peut avoir des progrès qui soient réellement extrêmement encourageants et s'emparer de beaucoup de victoires, des progrès fulgurants par la grâce de Dieu. Et puis cette œuvre de transformation, je termine ce point avec ça, vous direz juste deux, trois mots sur la volonté de Dieu, j'ai déjà commencé. Cette vie de transformation, cette vie de relation, de communication, il faut qu'elle soit entretenue, il faut qu'elle soit maintenue. Et c'est la pensée de Paul lorsqu'il dit « Soyez transformés par le renouvellement ». Vous l'avez ici, anakainosis. Le renouvellement, qui effectivement indique dans l'original, oui, la notion de changement complet vers ce qu'il y a de meilleur, mais aussi ici, cette deuxième partie de la définition dans l'original qui présente un renouveau, un renouvellement. Quelqu'un qui vit dans une authentique communion, dans une relation sérieuse avec l'Esprit de Dieu et la parole, il expérimente des transformations, mais, comme je vous l'avais dit, pas une semaine sur deux, pas pour revenir en arrière, pas pour faire des allers-retours, mais simplement, il expérimente ce renouvellement, un renouvellement permanent. Le Saint-Esprit est comparé à de l'eau, dans la parole, à de l'huile, à du feu, à du vent. Et ce renouvellement de l'esprit en nous, dans ma vie intérieure, dans mon intelligence, il y a un renouvellement. Et l'eau, le principe de l'eau, c'est qu'elle ne doit pas stagner, c'est qu'elle doit couler. Je ne dois pas être touché par l'eau de temps en temps, quand elle doit être renouvelée dans cette eau, dans ce fleuve, cette rivière, ce fleuve de l'esprit, afin que ce qui pourrait être sec en moi, soit rapidement irrigué. Et quand je suis blessé, je prends des coups, etc. Oui, mais j'ai cette vie de transformation et j'ai cette vie de renouvellement permanent. Et là, je découvre une autre facette dans les coutures de la vie. Il y a l'huile de l'esprit, parce que l'huile est une huile. Et son huile, elle passe. C'est un baume. Il coule. Il me console. Il m'apaise. Il me rassure. Et puis, c'est ce feu qui m'anime. C'est ce vent qui me donne la direction. Tout cela assure le renouvellement, une transformation, et ensuite je dois rester transformé. Et je dois rester dans ce renouvellement continuel du Saint-Esprit. La dernière chose, mais je ne dirai que quelques mots là-dessus, c'est le discernement de la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Ce n'est pas un chiffre pour un chiffre que je vais vous donner. Je dirais que 95% de la volonté de Dieu pour ses enfants est la même pour tous.
au sujet de la ressemblance à Christ, de la sanctification, de nos relations, de notre vie, de notre témoignage. 95% de la volonté de Dieu est la même pour tous. Et dans une authentique vie de consécration, de relation à l'esprit et à la parole, il y a des choses de la parole qui surgissent. Et je les discerne, qui sont des révélations. Mais ce sont les mêmes pour vous que pour moi, que les uns les autres, les pasteurs, les citoyens. Et après, il va y avoir aussi, mais c'est là que je ne peux pas m'étendre, il va y avoir ces 5%, pas un chiffre pour un chiffre, mais il va y avoir ces 5% qui vont être spécifiques sur les orientations que le Seigneur veut que je prenne. Avec qui est-ce que je vais me marier, Seigneur? Là, vous comprenez bien que le Seigneur n'a pas la même réponse pour tout le monde, ça ferait des ordres. Voilà, vous voyez à quoi je pense quand je dis les 5%. Seigneur, c'est elle ou c'est pas elle? Seigneur, c'est lui ou c'est pas lui? Pasteur, qu'est-ce que tu penses, toi? Ben, j'en sais rien, je ne suis pas conseiller matrimonial. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu as une authentique vie de consécration, la lumière de l'esprit, si tu t'es bien marié avec Jésus et tu as une authentique vie de consécration, il y a des choses qui vont passer devant tes yeux, ça va être évident. Mais moi, je ne peux pas le dire à ta place. Puisqu'en réalité, c'est ta vie de consécration avec Dieu. Une fois que tu auras trouvé les 95% de la volonté de Dieu pour toi sur tous les plans, là, ensuite, pour la volonté spécifique. Te dire, puis ensuite, Seigneur, ah, et le boulot, et le job, un choix très important dans la vie. Alors, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans la vie? Bon, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Ah, j'aime bien des fois les jeunes qui disent, ah, Seigneur, je te prie de me donner, de me montrer ta volonté pour moi. Ça, j'aime. Ta volonté pour moi. Seigneur, quelle est ta volonté pour toi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur? Seigneur, tu me dis, est-ce que je m'inscris à l'ENA? Est-ce que je suis chef d'entreprise? Est-ce que je gagne 15 000 par mois? Ou est-ce que tu veux que je sois un chirurgien? Je fais médecine et je gagne 10 000 par mois. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Peut-être que le Seigneur, il veut t'envoyer en mission en Afrique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Pour moi. Non, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et peu importe ensuite, au niveau du travail, des orientations spirituelles, vous avez ça fait partie de ces choses très spécifiques qui sont propres à chacun, au niveau des orientations de l'esprit, mais en réalité qui ne viennent toujours d'un seul et même principe. Quel est mon degré de consécration et quelle est ma véritable relation à la parole et au ministère de l'esprit dans ma vie? Afin que vous discerniez la volonté de Dieu, mais Paul a eu le bon sens de rajouter ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que si je n'ai pas conscience de à quel point Jésus m'aime, je vais avoir du mal à tout laisser sur son autel, y compris ma volonté, mes choix, mes conceptions de ce qui va être bien, pas bien, en avenir. Je vais avoir un mal fou à tout laisser. Le meilleur pour ta vie, c'est parce que tu penses être le meilleur. Parce que, n'oubliez pas, bien-aimés, nous sommes des brebis. Jésus a dit, vous êtes des brebis. C'est vrai, Ésaïe dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Comme l'aigle, c'est une image. La réalité, c'est qu'on n'est pas des aigles avec une vision 8 fois plus... Non, pas plus développée que celle de l'humain. Non. On n'est pas des aigles. La réalité, c'est qu'on est des brebis. Le propre d'une brebis, vous savez pourquoi Jésus a dit ça? Parce que le propre d'une brebis, c'est qu'elle est bien. C'est qu'elle ne verra jamais plus loin que le courson et qu'elle a désespérément besoin d'être conduite. Mais moi, si je n'ai pas conscience de mon état, si je n'ai pas conscience de je suis en train de convoiter en termes de conjoint, de fille, de garçon, ce que je suis en train de convoiter en termes d'argent, en termes de situation, si je n'ai pas compris que je ne vois pas le bout plus loin que le bout de mon nez, si je ne comprends pas que ce qui me semble être un rêve aujourd'hui sera peut-être mon pire cauchemar demain, si je n'en ai pas conscience, et je ne vais pas tout donner au Seigneur, mais si j'en ai conscience que sa volonté est bonne, agréable et parfaite, si j'ai compris que sa volonté est le meilleur pour moi, si j'ai compris que le Seigneur ne va pas m'emmener vers ce que j'ai envie, mais il va m'emmener vers ce dont j'ai besoin, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il ne va pas me conduire vers mes caprices, il va me conduire vers ce qui va me rendre heureux. Le problème, c'est que lui, il sait ce qui va me rendre heureux. Le problème, c'est que moi, je sais. Et quand j'ai compris ça, Ben, encore une fois, je dis, Seigneur, prends. Afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. À partir de là, c'est ma conclusion, je n'y reviendrai pas. Les grands points de cet épître sont développés ici. Mais à partir de là, l'essentiel étant acquis, l'apôtre Paul, à partir de ce verset derrière, va commencer à donner dans la dernière partie de son épître une sorte de recommandation, si vous faites attention, recommandation, exhortation, éthique, pratique, qui sont les conséquences, la mise en œuvre de la vie nouvelle au sujet de la conduite, témoignage, les relations avec les autorités, Romains 13, le témoignage de vie dans ce monde, les relations les uns avec les autres, à l'homme, 10 fois sur les 4 derniers chapitres, sur la vie nouvelle que vous avez, 10 fois sur les 4 derniers chapitres, les uns les autres, les uns, votre témoignage de la vie du monde et dans les uns, 10 fois dans le chapitre, les uns les autres. Et tout cela se résume, si vous lisez les Romains 12, c'est un 16, tout ça se résume par le chapitre 13, les versets 8 et 10. Toutes ces recommandations, cette nouvelle vie est imprégnée et dirigée par l'amour. On se résume dans ces deux versets au sujet des relations les uns les autres. Celui qui aime les autres a accompli la loi. L'amour, Romains 13, 10, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Le disciple a acquis toutes les vérités spirituelles fondamentales qui vont lui permettre de remporter une victoire totale sur les péchés, de ne plus avoir aucun obstacle dans sa relation, sa communion avec l'Esprit de Dieu au travers d'une consécration totale. Il va expérimenter une transformation, les facettes de la vie nouvelle, et on est en marche à la ressemblance de son Seigneur. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, bien évidemment. En tout cas, moi, c'est plus ce que je vous souhaite. Le reste après, Dieu seul sait. Amen. Soyez bénis. On se recueille un instant, s'il vous plaît. C'est l'heure.